Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, les grands mots du professeur Rollin. Dans cet ouvrage paru en 2006, François Rollin, fort du constat de l'appauvrissement du vocabulaire de la langue française, tente le sauvetage d'une centaine de ces mots menacés d'extinction. Voilà un livre intelligent, distrayant, drôle et instructif. Ce livre de François Rollin est rare, comme les mots qu'il renferme pour les libérer et les sauver. C'est un livre qu'on lit avec un perpétuel sourire aux lèvres dans l'attente du prochain bon mot, de la blague suivante ou de l'énième jeu de mots absurdes. François Rollin est amoureux des mots et de la langue française. On adore la façon de faire semblant d'avouer qu'on ne pourra pas sauver tous les mots, que certains ne le méritent pas, qu'il y a urgence pour d'autres, que les choix sont cornéliens. Parce que bien sûr, on aimerait que ce livre ne sauve pas 99 mots, mais 10 fois plus. François Rollin est né le 31 mai 1953 à Malo-les-Bains, dans le département du Nord. Il est notamment connu pour son personnage du professeur Rollin, créé en 1988 pour la série Palace. En parallèle de son activité de comédien, il est aussi metteur en scène, journaliste et chroniqueur de radio, s'exprimant dans de nombreux médias, RTL, France Inter, France Culture, Europe 1, Europe 2 et encore Le Monde. Son humour absurde, parfois proche du non-sens, joue de toutes les ressources de la langue française. Un humour qui fait de François Rollin l'héritier de Pierre Dac et de Pierre Desproges. Numéro 53, Feulé. Mes chers compatriotes, nous nous sommes assidûment depuis longtemps préoccupés de nos mots à tous nous, honorant d'une cour empressée notre belle langue, ses champions, ses moribonds, ses têtes de pioche et ses coquetteries. Il est temps à présent de donner la parole aux bêtes. Les animaux, en effet, ont leur langue, notamment le bœuf et sa célèbre langue de bœuf à la diable. Et ce sont ces langues que nous allons passer en revue. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le tigre. Que fait le tigre? Il feule. On dit aussi qu'il miaule, qu'il râle ou qu'il roque. Mais c'est quand il feule que personnellement il m'impressionne le plus. Et les autres? Je me suis servi pour faire le tour du monde des bêtes d'un site web que je vous recommande, qui s'appelle Lingophile, et qui du reste s'ouvre sur une citation un peu niaise d'Anatole France, le bien nommé. La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, si touchante, si voluptueuse, si chaste, si noble, si familière, si folle, si sage, qu'on l'aime de toute notre âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle. Mais revenons à nos moutons, qui bêlent. Le cerf brame, mais surtout pour le plus grand bonheur des crucivervistes, il raie ou raie. L'âne braie. Le chameau blatère, le cheval hennit, l'éléphant barit, la hyène rit, le renard glapit, le lapin clapit, le lièvre vagit, la panthère rugit, le rat couine, la souris chicote, la vache mugit, meugle ou beugle selon les saisons, le chacal jappe, le crapaud coasse, et pendant ce temps le tigre feule, et feule encore. Le chien, lui, est plus bavard. Il aboie, hurle, clabode, gronde, jappe, grogne ou glapit. Tous les chiens font ça, sauf Pif le chien, à mon grand dame. Mais bien sûr, on s'y attendait. C'est la langue des oiseaux qui est la plus riche. À vos lexiques, sans lesquels la scénette qui suit relèverait au choix de l'hébreu ou du chinois. Simone, viens là que je te dise quelques noms d'oiseaux. Me voici, je cours, je vole. Que fait l'aigle, Simone? L'aigle glatit, ou alors il trompette, c'est selon. Le hibou, il ulule, bien entendu. La mésange zinzise nulle, d'où l'expression « qu'est-ce que tu zinzis nulle ?» La caille cacabe ou margotte, mais loi cacarde, l'alouette grisole et la bécasse croule. Le paon braille, la perdrix glousse, le pinson pépit, nous sommes d'accord. L'hirondelle tisse, la cigogne claquette ou craquette, le dindon glougloute. Plus rare, le geai cajole et le cygne drance. Et bien entendu, le perroquet parle. Le perroquet parle. Oui, le perroquet parle. En effet, mes chers compatriotes, le perroquet parle et c'est de lui que nous vient le psittacisme. » 54. Ancillaire et morganatique. Mes chers compatriotes, ne vous moquez pas de moi, j'ai le vertige. Les choses ne sont pas passées comme je l'entendais. Voilà ce qui m'arrive. Je voulais sauver, aujourd'hui, l'adjectif « ancillaire » qui vient, comme vous le savez, de la servante latine « ancilla ». Je voulais, comme je l'ai fait pour les adjectifs « congru » et « létal », respectivement inféodés au substantif « portion » et « dose », « portion congrue » et « dose létale », stigmatiser l'inféodation de l'adjectif « ancillaire » au substantif pluriel « amour », des amours ancillaires. J'étais encouragé en cela par mes deux dictionnaires de référence. Le Robert, pour qui ancillaire se dit d'amour, de liaison avec des servantes, et le Larousse, qui mentionne sans plus de précision les amours ancillaires comme des amours avec une ou des servantes, un concept bien étroit et bien circonscrit, en somme, que Robert l'amoureux aurait aimé résumer en disant tout simplement « Papa se tape la bonne ». Mais voilà que, poussant un peu plus loin l'investigation, je m'aventure sur la toile. Vous le savez, j'ai décidé de suivre avec mon temps et je ne resigne pas à faire un tour du côté du net quand il s'agit d'en avoir le cœur du même métal. Et là, au vertige, pas ou très peu d'amour ancillaire, mais une flopée de références à deux exceptions du mot ancillaire que les dictionnaires m'avaient cachées. La première concerne la chirurgie orthopédique qui recourt, comme beaucoup de constance, au mot ancillaire, l'adjectif étant du reste souvent substantivé dans cette matière. Pour dire quoi? Pour parler de je ne sais quel appareillage ou outil utilisé en orthopédie réparatrice. Résultat, et je cite toujours cette étude manifestement fort sérieuse, l'ancillaire était adapté pour mesurer la flexion et l'extension et limiter la pronosupination au cours de la pronosupination. Et maintenant, conclusion, j'avoue que je ne m'y attendais pas. La mesure de l'abduction était majorée par notre ancillaire lors de la flexion-extension. La majoration par l'axillaire de l'abduction et de l'emboîtement lors de mouvements de flexion-extension était liée à la décoaptation de l'ancillaire par rapport aux membres. Nous voilà donc bien loin de l'amour, tel que je le conçois en tout cas. Mais il reste, là encore, bien loin des auberges de campagne où la cohorte servante accorde parfois ses faveurs aux voyageurs solitaires, il reste la statistique ancillaire. J'en trouve la définition dans un rapport et non plus une étude, un rapport ayant pour but d'étudier le problème de l'estimation d'un signal F dû à un certain bruit. Fou de rage, je me rabats sans vergogne sur l'adjectif morganatique qui qualifie un mariage, une union, une épouse ou des descendants, et la web n'en fait pas plus que les dictionnaires. Morganatique se dit du mariage d'un prince avec une personne de rang inférieur qui reste exclue des dignités nobiliaires, se dit de la femme ainsi épousée et des enfants nés de ce mariage. Dans le meilleur des cas, des amours ancillaires peuvent déboucher sur un mariage morganatique, sans aucun recours à l'orthopédie et aucune référence à l'immense génie que fut Carl Friedrich Gauss, sa formule dite formule de Gauss, pour calculer la somme des n premiers nombres entiers, sa courbe statistique, dite courbe de Gauss, sa double pesée, dite pesée de Gauss, l'unité d'induction magnétique qui porte son nom, le Gauss, et son bruit blanc, dit bruit blanc gaussien. Je n'ose ajouter son influence sur les rapports conjugaux, synthétisée dans la formule « Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour les gosses ». 60, vernaculaire. Si vous êtes aussi joueur que nous le sommes, mes chers compatriotes, dites-moi donc, séance tenante, combien de mots se terminant par « culaire » comme « vernaculaire » vous pensez connaître. Attention, le but du jeu n'est pas de trouver le nombre de mots en « culaire » existant en français, mais de dire avec précision combien vous en connaissez, même si vous les connaissez mal. Allez-y, dites un nombre. Vous avez perdu, vous êtes très en dessous de la réalité. Vos réponses vont de 4 à 10, alors que vous en connaissez plus de 20. Commençons par les plus simples. Oculaire, monoculaire et binoculaire. En voilà 3 d'un coup. Des maladies vasculaires, des douleurs musculaires, un problème articulaire du côté de l'auriculaire. C'est moins spectaculaire que 2 lignes de funiculaire perpendiculaire. Et voilà la dizaine. Un été caniculaire, une administration tentaculaire, un phénomène corpusculaire, une roue de vélo lenticulaire, la masse moléculaire, une lumière crépusculaire, un arbre séculaire. Ne me dites pas que tout ça n'est pas familier, et nous en sommes à 17. Concédez-moi encore le mouvement circulaire ou orbiculaire, le tissu réticulaire, la prose des folliculaires, un héritage avunculaire, vous avez bien un oncle ou une tante, et un traitement pédiculaire en cas de poux. Nous voilà à 23, les doigts dans le nez. Et vous pouvez maintenant, puisque de toute façon vous avez perdu, vous pouvez prétendre ignorer l'appendice verniculaire en forme de verre, l'écriture spéculaire ou en miroir, les fruits loculaires, l'os naviculaire, la plante insectivore nommée utriculaire, la souffrance piaculaire quand il s'agit d'expier, et par opposition aux langues véhiculaires, les langues vernaculaires. Le mot vernaculaire vient du latin et signifie relatif aux esclaves nés dans la maison. Vernaculaire signifie donc qui est du pays et qui est propre au pays. La population vernaculaire, c'est la population indigène, la population souche. La langue vernaculaire, c'est la langue qui ne se parle qu'à l'intérieur d'un pays ou d'une communauté. Ou bien, c'est la langue qui était là avant toutes les autres dans le pays. Ainsi, la langue vernaculaire de la France, c'est le français. La plupart des plantes et un grand nombre d'animaux ont un nom scientifique, identifiable par la communauté internationale, et un nom vernaculaire, celui qu'on leur a donné dans leur biotope d'origine. La queue de renard, c'est le nom vernaculaire de la jolie plante à fleurs rouges dont le nom scientifique est amarante. Et d'ailleurs, renard est le nom vernaculaire de 2 genres de canidés, dénommés vulpes et alopex. Soixante-huit, fun. Mes chers compatriotes, prenez une longue inspiration car nous allons secourir aujourd'hui fun, mot alémanique, le fun, vent chaud et sec des Alpes suisses et autrichiennes. Le fun a un fonctionnement bien particulier. C'est un vent qui vient de la plaine, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Il arrive sur les montagnes, les Alpes de préférence, il monte, il se refroidit par conséquent et il dépose son humidité au sommet de la montagne. Il bascule alors de l'autre côté et redescend de la montagne, non pas à cheval, mais sous la forme d'un torrent d'air brûlant. C'est le fun, sec et brûlant qui souffle, et c'est ce qui a donné à nos amis suisses la plaisante idée d'appeler leurs sèches cheveux des fun. Ce n'est d'ailleurs pas si bête, dans la mesure où le sèche-cheveux n'a pas d'autre fonction logique que de sécher les cheveux, alors que le fun, soufflerie d'air brûlant, sert aussi bien à réchauffer les moteurs diesel gelés qu'à sécher les chaussettes mouillées selon la procédure suivante. On introduit l'embout du fun suisse dans les chaussettes à sécher et en quelques secondes, les chaussettes, qu'elles soient ou ne soient pas celles de l'archiduchesse, sont sèches, archi-sèches. Le fun, qui n'est pas avare, a donné son nom à une famille de vents. On parle des vents de fun comme on parle des vents de mousson. Et on remarque avec plaisir, dans cette famille, des vents de fun, le Schneefresser, en allemand, le mangeur de neige, et le Chinook, du nom d'une ethnie indienne qui souffle au Canada et dans les rocheuses. Le fun est modeste et partageur. Il ne nous pardonnerait pas de ne pas nommer quelques-uns de ses confrères. Ils sont plus de 400 au dernier recensement, comme l'Alysée, qui tire son nom de l'ancien français « Alice », qui signifie « lys », car l'Alysée est un vent régulier. Le Kamakaza, vent japonais coupant comme une lame. L'Otan, vent méditerranéen orageux, ayant pour racine le mot latin « altanus », vent de la haute mer. Le Simoun et le Sirocco, terrible vent du désert. Le Barbeur, ou Barbier, vent glacé qui souffle non pas à Séville mais au Canada. Le Landlash, qui, comme son nom l'indique, fouette les terres d'Écosse. Le blizzard, tempête de neige aveuglante accompagnée d'un froid glacial et que les Québécois appellent poudrerie. La douce brise sur laquelle est étalonnée l'échelle de Beaufort, l'impitoyable bise. Le coqueil, œil du coq, qui souffle de biais dans le nord, ouest australien. L'armatan d'Afrique occidentale, surnommé le bon docteur. Les djinns, tempête saharienne, versifiée en crescendo de décrescendo par un Victor Hugo au sommet de sa forme. Et puis, comme dans la chanson de Georges Brassens, interprétée par Marcel Amon, le zéphyr, vent des ténèbres, l'aquilon, rapide comme l'aigle, auquel il doit son nom, et le grand maître Mistral. Faut-il encore, pour épauler le fun, nommer le pampero d'Argentine, le helm anglais, vent casqué, la mystérieuse tramontane, le vent qui rend fou, le carburant sans plomb du désert de Gobi, le rechabar, vent noir du Caucase, le chocolatero mexicain, comme on le devine, oui, il fallait nommer. Et ces choses faites, les fameuses choses faites, que les Suisses sèchent au fun. Pour finir, nous terminerons par « Vivons heureux en attendant la mort » de Pierre Desproges. Il faut rire de tout. C'est extrêmement important. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans. Jean Moulin disait... Merde, que disait Jean Moulin? Ah oui, Jean Moulin disait « Serrez pour moi l'expresso, Madame Germaine ». C'était en juin 1943, à Lyon, quelques jours avant sa mort. J'en ris encore. Le rire. Parlons-en. Et parlons-en maintenant. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui sans hésiter. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, c'est vrai que le rire sacrilège blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour ce qui est de rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines, regardons ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure, ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout à coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé, et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi, à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, tandis que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poil horrible. À la deuxième question, peut-on rire avec tout le monde? Je répondrai, c'est dur. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.